aux Galates, chapitre 3. Ce matin, on poursuit notre série dans l'Épître aux Galates et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été grandement béni jusqu'à maintenant à travers l'étude de ce texte, de se rappeler l'Évangile, plusieurs facettes de l'Évangile qu'on se rappelle à partir de l'Épître aux Galates. Et ce matin, un autre aspect de l'Évangile qu'on veut se rappeler, qu'on veut s'approprier dans nos cœurs afin de vivre pleinement cet Évangile dans nos vies. Et je vais lire l'Épître aux Galates, le chapitre 3, à partir du verset 15. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi, en Jésus-Christ, à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. On va se courir dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, rien d'autre je ne veux plus que le sang de Jésus qui me donne accès à la gloire éternelle, qui me donne accès à ta présence. Et Seigneur, c'est comme on chantait ce matin et comme on a entendu chanter, Seigneur, avec la joie dans le cœur, avec ces chants africains, Seigneur, on voit des rythmes différents, mais la joie d'avoir été sauvé par toi et profondément dans leur cœur et ça paraît. Et je veux, Seigneur, que dans ta grâce, cette joie puisse m'animer ce matin. Alors que je viens devant toi pour contempler ta parole, Seigneur, se réjouir à cause de l'Évangile, se réjouir à cause de ce que tu as accompli pour nous en Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui nous a été donnée. Et Seigneur, ce matin, on vient dans ta présence se présenter à toi. Et ma prière, c'est que mon cœur puisse vibrer à ta parole et au son de ta voix. Seigneur, ce chant où on veut retrouver la joie dans ta présence, on voit que cette joie, on l'a lorsque nos cœurs sont au même diapason que toi, lorsque tes paroles sont ancrées dans nos cœurs et qu'on veut vivre par ces paroles. Seigneur, ce matin, nous sommes tous devant toi avec ce désir. Ce désir que ta parole puisse pénétrer au fond de nos cœurs afin que nous puissions vivre pour toi. Et si ce n'est pas nos désirs, Seigneur, réveille-nous. Réveille-nous par ton esprit pour que nos cœurs puissent être dans la joie, dans ta présence et désirer vivre pleinement ta parole. Seigneur, c'est toi qui nous parles par ce texte ce matin et ma prière, c'est que tu puisses être avec mes auditeurs afin que leur cœur soit attentif et que je puisse, moi, de mon côté, être assez clair pour que ces paroles puissent toucher les cœurs et que par ton esprit, tu puisses, Seigneur, transformer nos vies afin que nous vivions pour ta gloire, la joie de t'appartenir et d'être tes enfants. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Qui n'a jamais rêvé de gagner le gros lot? Hein? On y a tous déjà pensé. À un moment donné, le 649 ou le Super 7 ou le nommez-les nous annonce un gros lot. Et puis des fois, je me souviens, Super 7, je me souviens quelques années, 45 millions, puis probablement que ça l'a dépassé, là, mais ça l'a marqué ma pensée, ce moment-là. 45 millions de dollars, ça me prend juste les bons numéros pour ça. Et je l'aurais. Et puis je réfléchissais à ça, puis bon, j'étais dans ce temps-là peut-être un peu plus jeune, on rêvait, on pensait que l'argent pouvait nous acquérir des choses, mais on y a tous un peu pensé, n'est-ce pas? Le gros lot, il sort, puis là, et si jamais, si je gagnais ce gros lot-là? Le 18 mai dernier, Gloria McKenzie, 84 ans de la Floride, a remporté le gros lot record à la loterie Powerball. 370 millions de dollars. Incroyable! Elle a choisi, dans un sens, elle aurait pu gagner 590 millions, 19 millions par année pendant 30 ans, mais je pense, étant donné qu'elle a 84 ans, elle est mieux de prendre le gros lot, soit 370. Puis là, je regardais ça, je fouillais un petit peu sur Internet là-dessus. Après impôt, 280 millions. T'en reste quand même pas mal. Puis là, réflexion, puis j'étais un gars de chiffres, hein, on réfléchit, 1%, je place ça 1% par année, 2,8 millions. Correct, ça! Hein? Ce serait pas pire d'avoir ça, 2,8 millions par année. Il me semble que je vivrais bien. Hein? Je pourrais servir le Seigneur, je le sors déjà. Mais dans un sens, si l'un d'entre vous gagnait ça, lâche sa job, puis on va dans l'œuvre, on vit pour le Seigneur pour le restant de nos jours. On n'a même pas besoin de s'inquiéter, l'argent est là. On pourrait aussi rêver d'obtenir un bel héritage. Peut-être que vous avez de la famille qui est plus fortunée que vous, et puis vous rêvez. Peut-être qu'il m'aime assez pour que je puisse hériter quelques dizaines de milliers de dollars d'eux. Et puis, on rêve des fois comme ça, espérer que les gens nous aiment et peut-être nous laissent un petit quelque chose. Et peut-être même que vous avez déjà reçu la promesse d'un héritage. Un testament déjà écrit, que quelqu'un vous a dit, « Quand je vais partir, je vais te laisser un héritage, tu vas être bien content. » Fait que, on ne sait pas. En fait, ce qu'on recherche, lorsqu'on pense à l'argent, lorsqu'on pense à les héritages, ce que l'argent pourrait nous procurer, on est en train de chercher une certaine tranquillité d'esprit, n'est-ce pas? La paix. La paix des soucis que les soucis financiers peuvent apporter dans nos vies. Et puis, on ne se le cache pas, des fois, les fins de mois sont serrées, puis on se demande comment on va arriver. Et puis, en quelque sorte, on est là, puis on cherche une tranquillité d'esprit par rapport à nos finances. Et dans un sens, on réfléchit à ce que l'argent pourrait nous procurer, et puis peut-être que mes problèmes seraient terminés, j'aurais plus besoin de m'inquiéter, mes problèmes seraient terminés, j'aurais tout payé. Mais parfois, dans ces moments-là, lorsqu'on rêve comme ça, qu'on laisse aller notre cœur à ce penchant-là, des fois que l'amour de l'argent peut être, on oublie que quelqu'un de plus grand, qui peut nous donner ce que notre cœur désire réellement, est le plus bel héritage qu'il a jamais promis. Le Seigneur, notre Dieu, est au-dessus de toutes choses. À lui appartiennent toutes choses. Et on oublie parfois dans ces moments-là que celui qui est plus grand que nous, qui nous a créés, qui connaît nos besoins, nous a préparé déjà un héritage merveilleux. Et dans le passage de ce matin, c'est ce que Paul explique, que Dieu a déjà fait la promesse d'un héritage et d'une bénédiction à Abraham et sa descendance. On a vu Abraham ce matin dans le passage, on va poursuivre ça. Puis il poursuit en quelque sorte son argument théologique qui a commencé au début du chapitre 3 pour démontrer que pour avoir part à l'héritage de Dieu, j'ai besoin d'être un enfant d'Abraham, de la descendance d'Abraham. Et c'est Paul va s'attarder à expliquer comment Christ nous donne part à cet héritage-là. Donc, je peux rêver d'avoir un bel héritage, Mais Dieu me réserve un héritage encore plus grand, et cet héritage-là, je le trouve en Jésus-Christ. Et Paul va continuer à démontrer dans ce passage-là l'incapacité de la loi de Moïse que Dieu avait donnée pour nous donner accès aux bénédictions de Dieu. Et Paul va déclarer que seule la foi en Jésus-Christ nous donne accès à l'héritage des enfants de Dieu. Seule la foi en Jésus-Christ nous donne accès à l'héritage que Dieu a promis à Abraham et ses enfants et à sa descendance. Et on voit dans le passage trois raisons pour lesquelles on devrait placer notre confiance en Jésus-Christ et qu'on peut continuer de lui faire confiance aussi dans notre vie chrétienne. Trois raisons pour lesquelles je devrais placer ma confiance en Jésus-Christ, c'est parce que en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé et Dieu est fidèle à ses promesses. On voit ça dans les versets 15 à 18. L'argument de Paul ici, dans le verset 15 et 17, on voit que Paul va dire un testament qui a déjà été donné, qu'un homme a écrit, ne peut pas être modifié ni annulé. Le testament d'un homme ne peut être annulé ou modifié par personne. C'était vrai il y a 2000 ans, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Personne ne peut rédiger ou se présenter chez le notaire pour modifier le testament d'une autre personne. Je ne peux pas présenter demain matin chez le notaire de mon père puis dire au notaire, j'aimerais que tu changes quelques petites affaires dans le testament de mon père, puis tourner ça à ma faveur. Impossible. Impossible d'annuler, de modifier le testament de quelqu'un. Et si, en quelque sorte, le testament d'un homme ne peut être modifié, combien celui que Dieu a laissé ne peut changer? Parce que Dieu a donné une promesse, il a donné une parole. Et Dieu ne change pas ses promesses et sa parole ne change pas. Lorsque Dieu a donné sa promesse à Abraham, il a conclu une alliance avec lui. Il lui a dit, je vais te donner une postérité, je vais te donner un pays, je vais te donner une descendance et toutes les nations seront bénies en toi. C'était la promesse que Dieu a faite à Abraham. Cette promesse-là a eu lieu quelques, je pourrais dire, 500 à 600 ans avant que la loi arrive. Et donc, Dieu a donné une promesse. Et lorsque Dieu fait une promesse, Dieu ne la change pas. Mon père, qui a fait son testament, pourrait changer d'idée et aller modifier son testament. Mais Dieu qui fait une promesse, cette promesse-là et ce testament-là que Dieu fait, ne changera pas. Et donc, l'argument de Paul, dans un sens, c'est que même si la loi est venue plus tard, ce testament-là, cette promesse-là que Dieu a faite à Abraham, ne changera pas. Et la loi est venue plus tard pour d'autres raisons. Non pas pour donner accès à l'héritage, mais pour d'autres raisons qu'on va voir un peu plus loin. Toutes les nations vont être bénies en toi. C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham et c'est la promesse qui n'a pas changé et qu'on peut vivre aujourd'hui. On l'a vu un exemple tout à l'heure, des Africains, des Nord-Américains, des Français, des Belges, tout le monde, dans un sens, a accès à la bénédiction de Dieu en Abraham. Toutes les nations ont le privilège de venir devant Dieu et d'être sauvées par la foi. Mais ça a pris quand même un peu de temps, un peu plus de 2000 ans, entre le moment où Dieu a fait la promesse à Abraham et le moment où il s'est accompli en Jésus-Christ. Et il faut comprendre parfois, parce que des fois on est impatient, on a hâte de voir la promesse de Dieu s'accomplir, que Dieu emploie parfois des détours. À plusieurs moments, Dieu va démontrer que le chemin à emprunter n'est pas toujours la ligne directe, n'est-ce pas? On voit ça dans l'Ancien Testament. Dieu aurait pu donner tout ça à Abraham au moment où il a fait la promesse. Il dit, je te donne une postérité, un pays, et puis toutes les nations vont être bénies en toi. Boum, c'est fait. Mais ça a attendu quelque temps. La loi est venue 430 ans plus tard, et Jésus-Christ est venu 2000 ans plus tard. Et on comprend par là que Dieu emploie parfois des détours dans l'accomplissement de ses promesses. Mais est-ce que ça change le fait que la parole de Dieu a été dite et qu'elle va s'accomplir? Non. Même si les détails du plan de Dieu peuvent être parfois bizarres et on ne comprend pas comment Dieu va arriver à ses fins, la promesse de Dieu a été donnée et elle va s'accomplir. Et Dieu emploie parfois des détours. On voit des exemples dans l'Ancien Testament avec le peuple d'Israël. Ils étaient supposés d'entrer dans la terre promise, arrivent dans le désert, pêchent contre l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'entreras pas dans le pays, ça va être ta descendance qui va rentrer dans le pays. Et 40 ans à tourner en rond dans le désert. Un petit détour que Dieu a donné à son peuple. Et a puni, en fait, ceux qui avaient été incrédules. Et a donné l'héritage à ceux qui, à la génération d'ensuite. Donc, Dieu agit en relation avec son peuple. Et donc, le peuple de Dieu, parfois, peut pécher, peut agir de différentes façons. Et Dieu agit en relation avec son peuple. Et on doit comprendre que le plan de Dieu, on a la grande ligne, mais on n'a pas toujours les détails. Et Dieu emploie parfois des détours. Parfois, dans notre marche avec lui, le Seigneur nous fait prendre des détours. On oublie souvent que le plan de Dieu, pour nous, oui, c'est de nous donner un héritage, puis on a hâte que le Seigneur revienne, qu'on ait pas cet héritage-là, mais en même temps, Dieu a un plan pour nous, personnellement, de nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. Dans Romains 8, au verset 29, je vais prendre le temps de le lire. Vous pouvez simplement, si vous voulez tourner, allez-y, sinon je vais simplement le lire. Dans Romains 8, verset 29, Paul dit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. » Et donc, oui, Dieu veut donner la promesse. Dieu veut que toutes les nations viennent à lui et soient bénies en lui. Mais Dieu veut nous bénir en nous rendant conformes à l'image de Christ. Et ça, des fois, ça peut demander du temps. Dans mon cas, oui, pas mal. Même je vais arriver à la fin de ma vie, puis j'aurais, humainement parlant, jamais atteint l'image parfaite de Christ, sinon quand je vais le voir face à face. C'est ce que la parole de Dieu dit. On va se réjouir parce qu'on va le voir tel qu'il est, puis il va nous glorifier. On va être avec lui pour toujours. Mais il ne faut pas perdre de vue ça. Il ne faut pas perdre de vue que Dieu emploie parfois des détours, et dans nos vies, on peut voir parfois des épreuves comme des longs détours. Mais Dieu est fidèle à sa promesse. Et sa promesse va s'accomplir. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Dieu veut nous rendre conformes à l'image de Christ, puis pour ça, Dieu va nous faire passer par l'épreuve de notre foi. Romains 8, encore une fois. Romains 8, verset 28, juste avant. Le but, c'est de nous rendre conformes à l'image de Christ. Mais comment il va le faire? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt à mon bien. Et puis tantôt, Danny a lu dans 1 Pierre chapitre 1, les versets 3 et 4, je vais vous le lire. Comment on va arriver justement à être conforme à l'image de Christ et comment toutes choses peuvent convenir à notre bien? Il dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. » Donc ça, c'est le plan de Dieu, d'avoir part à l'héritage. Mais attendez, verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors Dieu nous a donné cet héritage, on a la promesse, et puis on peut vivre dans cette promesse-là. Mais ça se peut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais ça, ça a pour fruit de vous rendre conformes à l'image de Christ pour la gloire de Dieu. Alors Dieu va employer parfois des détours. Mais c'est notre réconfort parfois dans les épreuves de savoir que ce que Dieu a promis, il l'accomplit. Dieu avait promis une descendance à Abraham, on voit ça dans les versets 16 et 18 entre autres. Il avait promis une descendance à Abraham, la promesse a été faite 2000 ans auparavant et cette descendance-là est venue quand? Verset 16. Il s'agit d'une seule descendance et à ta descendance la promesse a été faite, c'est-à-dire à Christ. Donc, Jésus-Christ, descendant d'Abraham, vient pour générer lui aussi une nouvelle descendance. Et à travers cette descendance-là, c'est là que Dieu bénit toutes les nations. Comment Dieu fait ça? Jésus est venu pour accomplir la promesse, pour se donner lui-même, pour mourir sur la croix, en sacrifice pour nos péchés. On avait besoin d'avoir des cœurs changés, des cœurs transformés. Et par nos péchés, on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu et entrer dans le royaume parfait que Dieu nous prépare. On avait besoin de quelqu'un, un deuxième Adam, si je peux dire. Étant né dans le premier Adam, j'étais un pécheur, perdu dans mes péchés. Et Dieu a suscité un nouveau Père, Jésus. Et en croyant par la foi, son sacrifice me pardonne de mes péchés. Je peux maintenant avoir part à l'héritage par la foi en Jésus-Christ. C'est là que je deviens un enfant d'Abraham. Parce que la descendance d'Abraham, c'est pas le peuple juif. C'est quoi qui est écrit verset 16? La descendance d'Abraham, c'est la descendance de Christ par la foi. Alors des fois, on a des discussions entre chrétiens, cherche les Écritures, cherche à comprendre qui est le peuple de Dieu. Est-ce que c'est Israël ou c'est l'Église? C'est Israël par la foi et les nations par la foi. Donc, Israël et les nations, ensemble, pour la gloire de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Pour ça que Paul va dire, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, plus de distinction. » Il n'y en a plus de distinction parce que par la foi en Jésus-Christ, c'est là que j'ai accès à la promesse. Je suis un descendant d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et que si tu... Peut-être que tu es un juif ici, je ne sais pas, j'en connais pas beaucoup, mais peut-être que tu es ici puis tu penses que tu as part à l'héritage à cause que par la chair, tu es descendant d'Abraham. Tu te trompes. Parce que la descendance d'Abraham, c'est Christ. Et tu as besoin de croire que le Messie est venu et qu'il s'est donné pour que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés. Et par la foi en lui, tu as accès à la promesse. Et tous doivent croire, pas juste les Juifs, toutes les nations maintenant. Parce que Dieu nous a envoyés parmi les nations pour être témoins de Jésus-Christ. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons accès à la promesse. Et on sait que la promesse est accomplie en Jésus-Christ. Et Dieu va accomplir sa promesse qu'un jour, on va avoir part à l'héritage qui nous est promis. On peut compter sur les promesses de Dieu parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Et lorsque c'est difficile, comment je vais réussir à marcher puis à m'en sortir? C'est lorsque je vais avoir la foi dans ce que Dieu dit, la foi d'Abraham, et croire que c'est difficile, mais j'ai en vue l'héritage que Dieu m'a promis. Et j'ai cette espérance qu'un jour Dieu va complètement me délivrer de mes épreuves et que je vais être avec lui pour toujours. En attendant, Dieu veut me rendre conforme à l'image de Christ. En attendant, je veux grandir dans l'image de Christ pour la gloire de Dieu. Alors, même si des fois des épreuves, on peut s'apitoyer sur nos épreuves, Jacques nous dit, regarde-les comme un sujet de joie, parce que ça produit une foi à la ressemblance de Christ, et tu grandis dans la ressemblance de Christ. Donc, pour hériter de la promesse de Dieu, il faut réaliser que ça ne vient pas de nos propres œuvres, mais qu'elle vient de la grâce de Dieu qui annonçait la foi en Jésus-Christ. Et donc, Dieu a fait grâce à Abraham, à la fin du verset 18, « Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de grâce. » Dieu a fait grâce à Abraham d'une promesse, et ce n'est pas par la loi. Maintenant, il y a une question qui est soulevée. Si c'est Jésus-Christ qui est le seul qui donne accès aux promesses de Dieu, pourquoi la loi? Si la loi ne donne pas accès aux promesses, c'était quoi son rôle? Le rôle de la loi n'était pas de donner accès aux promesses de Dieu. Le rôle de la loi était autre, et c'est ce que Paul va adresser dans les versets 19 à 25. Et ici, je peux être, si tu n'es pas habitué avec le langage des Écritures, c'est quoi la loi? Est-ce qu'on parle de la loi civile? Je ne dois pas franchir 70 km/h lorsqu'on est dans une zone de 50. Non, on ne parle pas de cette loi-là, OK? On parle d'une loi, de la loi, je vais vous faire rire, mais je veux pas négliger ça. Des fois, les gens me disent, « De quoi la loi? C'est quoi ça? » Bien, la loi, c'est la loi de Dieu. Dieu avait donné à la descendance d'Abraham dans la chair une loi que ce peuple-là devait suivre. Et cette loi-là a été donnée à Moïse un jour sur la montagne du Sinaï. Et lorsque Paul fait référence à la loi, et puis c'est pas par la loi, c'est pas par les œuvres de la loi que je vais être justifié, etc., il fait référence à la loi de Moïse. Et cette loi, souvent on la résume dans les 10 commandements, mais ça peut se résumer dans un ou deux commandements, d'aimer de tout son cœur et son prochain comme soi-même. Donc, la loi de Dieu a été donnée au peuple. Et le peuple est tombé dans un piège, pensant que la loi me donnerait accès aux promesses de Dieu. Pensant que observer la loi, une après l'autre, je les étudie, je l'applique à mon cœur, puis en les observant du mieux que je peux, je vais avoir part à l'héritage. Mais ce n'était pas ça que Dieu avait prévu. Évidemment, il y avait une bénédiction à marcher avec Dieu, puis à appliquer les promesses de Dieu, la loi de Dieu à son cœur, et de marcher pour lui. Il y avait une bénédiction. Mais l'héritage, il avait été donné à Abraham par une promesse longtemps d'avance. Et donc, ce n'était pas par la loi, en observant la loi, que j'allais devenir enfant de Dieu et hériter des promesses de Dieu. Trois rôles que la loi avait, on voit ça dans ce passage. Premièrement, la loi nous montre que nous sommes pécheurs, verset 19. Paul la pose, cette question. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Donc, elle a été donnée à cause des transgressions. Qu'est-ce que c'est une transgression? Si tu transgresses la loi, ben, tu es passible d'un jugement. Si tu désobéis à la loi, tu vas être jugé pour ça. Et j'ai donné l'exemple tantôt du 70 km/h dans une zone de 50, mais si je me fais prendre par la police, je vais avoir une amende à payer. Mais si la pancarte 50 n'était pas là, puis j'avais aucune connaissance d'une loi 50, est-ce que 70 serait quand même péché? Est-ce que je serais en train de transgresser la loi? C'est une bonne question, hein? Dieu avait quand même donné certaines lois déjà avant. Et puis, lorsque la loi est venue, qu'est-ce qu'elle a fait, la loi? Elle a montré que le péché était là. Pourquoi la loi? Elle a été donnée à cause des transgressions. Si je roule 70, puis c'est aucunement sécuritaire, puis la loi, à un moment donné, apparaît et dit 50, puis je continue de rouler à 70, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de dire, oups, là, je suis un transgresseur. C'était ça le rôle de la loi, en fait. La loi de Dieu a été donnée à Moïse pour que le peuple de Dieu réalise que, oh, je n'étais pas dedans pantoute, moi. Là. Moi, je pensais plaire à Dieu, mais j'étais complètement à côté de mes feutres. Je pensais qu'en faisant ça, j'étais bon, mais c'est en dehors de Dieu. Oh boy, il est pas mal plus élevé. J'ai jamais offert un agneau en sacrifice. J'ai jamais fait tout ce que Dieu demande, de donner des sacrifices et d'apporter des offrandes. J'ai jamais fait ça. Wow, j'étais à côté du standard de Dieu, en quelque sorte. Et Dieu a donné cette loi pour montrer au peuple d'Israël et à nous, voici combien vous êtes des transgresseurs et que vous êtes incapables de obéir à cette loi-là. Et Paul va même jusqu'à dire, dans Romains 5, au verset 20, que la loi a été donnée pour que les péchés soient multipliés. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Donc, je suis un transgresseur, mais Dieu rajoute des petits détails que je n'avais pas vus avant. Puis là, finalement, impossible à suivre, puis c'est impossible. Je suis un transgresseur, ben, je ne serais jamais capable d'obéir à ça. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait augmenter l'offense envers Dieu. Et là, je suis devant Dieu, et le rôle de la loi est là pour me montrer que je suis un pécheur. La loi est là pour dire, Alexandre, regarde le standard que j'ai, essaye de suivre ça. Impossible, Seigneur, comment tu veux que je sois capable de faire ça? Je suis un pécheur, mon cœur est tortueux, impossible. Et lorsque j'en viens à réaliser que c'était ça le rôle de la loi, c'est déjà un bon premier pas. Si je dis la loi est là pour que je la suive, puis que je sois capable, puis finalement je vais réussir à rencontrer le standard de Dieu, c'est pas ça. La loi est là pour te montrer que tu es un pécheur, puis que tes péchés sont nombreux. Et que en regardant la loi de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène à réaliser qu'on est des transgresseurs de la loi. Et la loi nous montre qu'on est pécheur. Ça, c'est le premier rôle de la loi. Deuxième rôle de la loi, c'est la loi nous emprisonne sous le péché. Donc, Verset 22, ça revient un petit peu à ce que je disais auparavant, mais verset 22 va dire, « Mais l'Écriture, la loi, a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Donc, le rôle de la loi était de nous emprisonner en vue de la foi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous les hommes, toutes les femmes sont incapables d'obéir à Dieu. La loi est parfaite, la loi de Dieu est parfaite. Moi, je suis imparfait, je suis incapable d'obéir à Dieu. Et la loi servait à nous mettre tout le monde dans le même bateau. Et dire, je suis dans un bateau de gang de transgresseurs et je fais... Et Paul va dire dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ben, je suis dans le bateau avec tout le monde, puis on s'en va vers la condamnation, vers la punition éternelle. Je suis emprisonné sur ce bateau que la loi me montre que je suis un pécheur et sous le péché, je suis emprisonné. Et on est tous sur le même bateau. Par la loi, on était prisonniers dans cet état de condamnation. Même si on fait tous les efforts possibles pour essayer de sortir de là, ça n'arrive pas. Par exemple, je donne un bain à ma fille de 2 ans, elle s'amuse comme un poisson dans l'eau. Si je l'amène dans une piscine, si la piscine est ça d'autre, elle va être capable de se débrouiller encore. Mais si je l'amène sur un bateau, puis je la lance au milieu de la mer, qu'est-ce qui va arriver? Il y en a des... j'ai vu des vidéos sur Internet cette semaine. Il y en a des bébés flyés. Ils sont capables de nager. Mais je le ferai pas, OK? Avec ma fille, je le ferai pas. La mer représente la loi. L'incapacité de s'en sortir. Et lorsque je lance ma fille dans la mer, elle sera jamais. Elle va couler au fond. Si je donne 2-3 lois, peut-être qu'elle va être capable. Mais toute la loi de Dieu, impossible. Et on est tous dans ce bateau-là, où on était lancés dans la mer, et on coule à cause de nos péchés. Qu'est-ce que ça prend à ma fille pour qu'elle puisse se sortir de là? Ça prend quelqu'un qui tend la main, puis dit, viens-t'en. Ça arrive une fois à un de mes gars dans une piscine. C'était pas loin, le sauveur était là. Ça s'en allait dans le fond, c'est pas bon signe. Ah ouais, il sort là. La même chose. La loi, le rôle de la loi était de démontrer l'incapacité et de nous submerger sur notre incapacité. Dans quel but? On va le voir un petit peu plus loin. Mais mon incapacité à me sortir de la prison du péché m'amène à considérer que la loi n'est pas ma solution. C'est pas en observant la loi d'essayer de me débattre au milieu de la mer ou au milieu de cette loi-là pour essayer de m'en sortir. Je serais pas capable. Impossible. Je dois trouver ma solution ailleurs. La loi, troisième rôle, nous conduit vers la foi en Christ, qui est notre seul espoir. Comment ma fille avait besoin de quelqu'un pour la sortir, nous aussi, on a besoin de quelqu'un pour nous sortir de là. Et le rôle de la loi était pour nous montrer, « Je suis incapable, mais Seigneur, tu peux-tu me donner quelqu'un qui peut m'aider à m'en sortir? » Et la loi avait pour but de dire, « Regarde, Christ vient et lui va t'en sortir. » C'était le troisième rôle de la loi, de nous conduire vers Christ. S'il avait été possible que la loi sauve, verset 21, s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais il n'y avait pas de loi qui pouvait procurer la vie. Le rôle de la loi était de mettre en valeur mon désespoir pour que je cherche à être rendu juste devant Dieu. Je paraisse comme un non-coupable devant Dieu, non par les œuvres, mais par la foi. Dieu a donné la loi pour que je cherche mon espoir ailleurs que dans la loi. La loi, est-ce qu'elle est contre les promesses de Dieu? Paul va dire, verset 21. La loi est-elle contre les promesses de Dieu? Non, elle n'est pas contre les promesses de Dieu. Elle est là pour nous conduire vers la promesse. La loi est donnée pour que, regarde à Christ, il va te donner part à la promesse, pas en observant la loi puis en essayant d'être parfait, mais en pointant vers Jésus-Christ, en mettant ta foi en Jésus-Christ. Et parfois, comme chrétien, et c'est ça que Paul adresse dans Galates 3, on est dans cette situation où on cherche à obtenir la faveur de Dieu par nos bonnes œuvres. Essayer d'obtenir la faveur de Dieu parce que j'observe la loi de Dieu. Ah Seigneur, regarde, j'ai aimé mon prochain. J'allais dire une blague, mais je la ferai pas. Là. Je la dirai à la personne en question. Mais j'aime mon prochain. Je suis venu à Bouffe pour tous. Pour donner un exemple comme ça, je suis venu à Bouffe pour tous. J'ai donné de la nourriture. Regarde Seigneur, comment je manifeste les fruits de l'esprit. Regarde comment c'est bon, Seigneur. Es-tu favorable plus envers moi quand tu me regardes aller comme ça? Seigneur, il dit non. Tu n'es pas plus favorable à mes yeux. Parce que celui qui te rend favorable à mes yeux, c'est Jésus-Christ. Ce sont des pensées humaines. Paul va dire au début du chapitre 3, il dit, c'est penser selon la chair, de penser que je mérite la faveur de Dieu à cause des œuvres bonnes que je fais pour le Seigneur. Le Seigneur nous dit lui-même dans Éphésiens 2 qu'il les a préparés d'avance. C'est pas toi qui l'as fait, il était là, tu l'as fait. Puis, tu as glorifié Dieu à travers ça, mais ça ne change rien à ta position devant Dieu. Et souvent, comme chrétien, on va avoir des lois comme ça. Je pense aux disciplines spirituelles. Souvent, lire ma Bible, prier, tout ça. Ça fait longtemps, j'ai manqué. J'ai pas lu ma Bible, ça fait 2 semaines. Des fois un mois, des fois 3 mois, je n'ai pas ouvert ma Bible. Là, je dis, oh, Seigneur, il ne m'aimera peut-être pas. Là. Il faudrait peut-être que j'aille lire ma Bible et que je prie un petit peu plus si je veux que le Seigneur m'aime. N'importe quoi. Excusez-moi, si tu penses que Dieu t'aime plus parce que tu as lu ta Bible, puis tu as prié, puis tu es allé à l'église, tu es allé à Bouffe pour tous, tu es allé à ton petit groupe, puis tu as... Foutaise! OK? Parce que la faveur de Dieu, c'est une grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ et non par l'observation de multiples lois qu'on se donne. C'est Christ qui me donne la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Donc, les disciplines spirituelles, arrête de voir ça comme hey, « je vais être meilleur si je réussis à faire ça. Hey, j'ai jeûné 3 fois cette semaine. » Non. Tu n'as rien compris. Les disciplines spirituelles, la lecture de la parole, la prière, c'est le soupir de mon cœur. On dit, Seigneur, je veux tellement t'aimer puis te glorifier. Puis je sais que tu as tout fait pour moi en Jésus-Christ puis tu m'acceptes. Je suis ton enfant, je suis sûr de ça. Je veux te donner la gloire pour ça. Aide-moi, Seigneur. Puis là, je vais dans la parole puis je lis puis je dis, ah, oh, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je veux le faire. C'est des fois, c'est comme ça que je crie à Dieu. Je veux tellement t'aimer, je veux être passionné. On est une église qui veut être. Avoir une passion pour Dieu. Hein? On s'est donné ça comme slogan. Une passion pour Dieu, ça se révèle comme... À genoux, Seigneur, par ton esprit, donne-moi une passion pour toi pour que je puisse te glorifier dans tout ce que je fais chaque jour. Je veux pas avoir ta faveur. Je l'ai déjà toute. Je veux juste te donner toute la gloire parce que tu la mérites. Alors, frères et sœurs, lorsque je m'approche de Dieu... Je ne vais pas pour obtenir sa faveur. Je ne vais pas sur la base de mes mérites personnels. Parce que Dieu a prévu que Jésus-Christ est le seul qui donne accès à l'héritage et aux promesses de Dieu. Et c'est lui qui me donne sa grâce. Les autres religions vont vous enseigner à suivre un paquet de choses pour vous approcher du nirvana, pour connecter avec le un qui existe. Il faut que tu fasses toutes sortes de choses, des philosophies. Alors que c'est juste là une main tendue, que tu as juste à prendre et dire « Merci de m'avoir sauvé. » La grâce de Dieu est là. Tu as juste à croire que cette main tendue-là te donne accès à Dieu et à l'héritage de Dieu. Et quelle bénédiction! Par la foi, on devient enfant de Dieu puis on hérite des promesses de Dieu. Pourquoi je dois croire en Jésus-Christ? Parce que c'est par la foi en lui que je vais devenir un enfant de Dieu. Je ne deviendrai pas un enfant de Dieu par mes propres forces ou par l'observation de la loi, mais lorsque j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu ou filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » C'est quoi l'accès à être un enfant de Dieu? Jésus! Par la foi en Jésus-Christ, je suis un fils ou, pour les femmes, une fille de Dieu. La foi en Jésus-Christ, c'est le moyen par lequel on devient enfant de Dieu. Jean 1:12 nous dit, je vais tourner, je vais vous le lire, Jean 1:12. Je le connaîtrai par cœur, mais avec la nervosité des fois, ça ne vient pas tout de suite. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu qui? La parole, Jésus. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelque chose qui m'était impossible. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu m'a été donné par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, je suis maintenant un fils, une fille de Dieu, totalement accepté de Dieu. Je suis un héritier de la promesse. Je fais partie du royaume de Dieu. Je lui appartiens, je suis son enfant. Alors, pourquoi croire que mes bonnes œuvres vont me rapprocher de Dieu? Pourquoi essayer de retourner à la loi pour mériter la faveur de Dieu? Pourquoi m'imaginer et ressentir que Dieu me rejette quand je tombe? Si tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, Dieu te dit, vous êtes, vous serez, non, vous êtes maintenant fils et fille de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, c'est lui ton sauveur, tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de travailler plus fort pour mériter quoi que ce soit. Dieu te l'a donné déjà. Et maintenant que Dieu a fait de nous ses enfants par la foi en Jésus-Christ, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. On est enfant de Dieu et on peut avoir cette certitude-là par l'Esprit que Dieu nous donne lorsqu'on vient à la foi en Jésus-Christ. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu doutes, tu n'as pas la certitude. Des fois, on pose la question, as-tu la certitude d'avoir la vie éternelle? Et si tu ne peux pas répondre oui à ça, un oui affirmatif, pose des questions. Va voir quelqu'un qui peut te parler de la grâce qui est en Jésus-Christ pour que tu puisses dire oui avec certitude en plaçant ta foi en lui. Et peut-être que tu doutes parfois parce que tu ne crois pas ce que Dieu dit réellement. Et des fois, on pense qu'on n'est pas accepté. Mais non, Dieu te le dit, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu es un fils, une fille de Dieu. C'est une assurance qu'on a, c'est une certitude qu'on a. Et Paul va dire qu'on a revêtu Christ, ça veut dire qu'on a reçu Christ qui vit en nous. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je peux vivre pour la gloire de Dieu maintenant. Et tout ce soupir là, que je manifestais un peu tantôt de vouloir vivre pour Dieu, Christ vit en moi pour me permettre de vivre pour la gloire de Dieu maintenant. J'ai revêtu Christ et je vis pour la gloire de Dieu. Et finalement, j'hérite de la vie éternelle, l'héritage qui m'a été promis. Paul va faire un... Il va le mentionner rapidement. Excusez-moi, là, juste verset 21. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Et lorsqu'on parle de justifier devant Dieu, rendu juste, c'est la même chose que dire la vie éternelle. Si je veux avoir la vie, je trouve que cette vie-là est plate. La vraie vie, Dieu me la donne, puis pour l'éternité. Si je veux avoir la vie, c'est à Christ que je dois aller. Parce que c'est lui qui me donne l'héritage de la vie éternelle. Seigneur, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est Jésus qui nous conduit vers le Père, qui nous donne la vie éternelle. On peut essayer de rêver d'une vie meilleure ici-bas, puis essayer de poursuivre une vie meilleure avec notre confort et toutes sortes de choses. Ça va être éphémère. Cette paix-là ne va pas durer. Celle qui dure, là, on la trouve en Jésus-Christ. Elle dure éternellement. Puis la vie éternelle, c'est le plus beau cadeau que Dieu a jamais offert. La bénédiction de vivre dans la gloire de Dieu pour toujours, revenir à ce but que Dieu avait dès le départ dans le jardin d'Éden, de vivre une relation intime, simple, avec Dieu. Dieu la promet en Jésus-Christ, la vie éternelle avec lui. Puis la vie éternelle, elle nous est donnée. On peut l'avoir pour toujours. Ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Elle nous est donnée gratuitement. Parce que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on devient enfant de Dieu et qu'on hérite des promesses de Dieu. Veux-tu goûter la bénédiction de Dieu et avoir l'assurance que tu vas passer l'éternité avec lui? Crois. Crois ce que Jésus a fait. Si tu crois de tout ton cœur, Dieu te donne la vie éternelle. Tu deviens un enfant de Dieu. Si tu veux avoir l'assurance d'avoir l'éternité avec Dieu, crois ce que Jésus a dit. Fais confiance à la parole de Dieu. Fais confiance que l'œuvre de Christ est parfaite pour te sauver. Puis déclare à Dieu que tu veux arrêter de vivre en essayant de gagner sa faveur, mais que tu veux la saisir, cette faveur-là, et vivre pour sa gloire. Peut-être que tu as déjà pris cette décision-là de donner ta vie au Seigneur Jésus. Reçois la promesse de Dieu de tout cœur. Dieu a fait de toi son enfant. Tu lui appartiens une fois pour toutes. Soumets-toi entièrement à sa parole. Crois par la foi pour rester attaché à Jésus-Christ et le laisser vivre en toi. Le gros lot, la loterie ou un héritage humain, ce n'est pas ce qu'on a besoin d'être heureux. Pour être heureux puis vivre en paix. Pour avoir une paix qui rassure entièrement, c'est la foi en Jésus-Christ qui me la donne. Cette paix-là, une paix véritable. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Crois, puis tu vas être un enfant de Dieu et son amour sera avec toi pour toujours. Le gros lot t'apporte rien. Dieu va te donner toutes choses avec lui. Tu n'as qu'à croire, te présenter devant lui, le supplier de te donner cette faveur. C'est l'héritage que j'ai reçu par la foi. C'est le gros lot qui a changé ma vie. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci parce que cet amour ne changera jamais. Tu l'as manifesté en Jésus-Christ qui s'est donné pour nous, pour qu'on puisse avoir part à cet héritage de la vie éternelle. Être parmi toutes ces nations qui vont être assemblées autour du trône pour te donner la gloire pour l'éternité. Et tu dis dans ta parole que toute langue, toute tribu, toute nation seront là devant toi pour t'adorer. Seigneur, je ne veux pas m'accabler avec des lois ou avec des disciplines et penser que je vais obtenir ta faveur à travers ça. Je l'ai déjà tout obtenu. Mais je veux vivre pour toi, Seigneur. Revêtir Christ et vivre pour toi jusqu'à ton retour ou jusqu'à ce que tu me ramènes à toi. C'est dans ta grâce que je te prie. Amen.